Pour les gens qui sont à l'antenne, des auditeurs assidus depuis plusieurs années, je pense que vous connaissez la couleur de l'émission. Je suis un gars qui est law and order. De la police, de la sécurité, de la rigueur, de la surveillance, de la protection, protéger nos plus vulnérables et protéger les enfants. Ça a toujours été ça, la signature de l'émission, depuis que je fais de la radio à Québec, depuis février 2004 et même avant. Et je ne peux que me réjouir de la tournure des événements avec l'arrivée d'un ministre dégourdi qui est branché ses bonnes sources, Yann Lafrenière, qui nous arrive avec ce qu'on peut appeler... Il y a deux lois, puis il va nous l'expliquer parce qu'il est en ligne dans quelques secondes. On va en jaser, mais ce qui me réjouit le plus ce matin, et ça devrait vous réjouir aussi les parents de jeunes, mais on parle pas juste de pédophilie ici, on parle d'abuseurs, entre autres, les abuseurs de femmes, ceux qui... violents envers nos femmes, mais il faut les surveiller, il faut les encadrer. Et c'est l'arrivée d'un registre public des délinquants sexuels. Wow! Quelle surprise! Yann Lafrenière, le ministre de la Sécurité publique, comment ça va?
Hey, ça va bien, bon matin. Je vais commencer en vous disant, parce que j'ai entendu l'introduction, je vais rajouter une petite couche en vous disant, quand on parlait de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs,
oui.
Vous avez été un ardent supporter. Je vous remercie aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui en doutaient, mais aujourd'hui, je pense que personne n'en remet sans doute. Hein. C'est important. Il faut agir pour nos enfants. Je l'ai dit pendant la commission. Si les mêmes ajustements se faisaient sur des animaux, il y aurait des manifestations dans les rues de Montréal.
Absolument. Puis on s'est connus dans une autre vie. J'étais journaliste à Montréal, puis je fais affaire avec Yann Lafrenière.
Pendant quelques années.
Ben oui.
Quelques années au pluriel. Mais je suis content d'être avec vous ce matin.
Ouais, moi aussi, je suis content.
Écoutez, depuis ma nomination, mon premier ministre m'a donné un mandat clair. Je vous dirais que dès que j'ai été nommé, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrite, que ce soit des policiers, des vétérans, des citoyens, des gens du ministère qui m'ont donné des suggestions. Je me suis entouré de 6 spécialistes, 6 policiers d'expérience qui ont regardé tout ce qu'on avait reçu, qu'ils ont trié. Ma première annonce, il y a quelques semaines, ça a été en matière de prévention. Premier axe important pour moi, c'est de prévenir les jeunes qui pourraient être tentés de rejoindre des groupes criminalisés. 140 millions sur 5 ans avec plusieurs organismes au Québec. Et là, le deuxième volet, c'est une pièce législative. On vise plusieurs choses. Premièrement, donner les outils aux policiers pour agir dans plusieurs volets. Je vais vous en parler dans un instant.
Oui.
Ça, c'est la première chose. Le deuxième, c'est une passion pour moi, c'est la lutte au crime organisé. J'en suis très heureux. Puis le troisième, faut jamais oublier les victimes. Alors, donner la voix aux victimes et de prendre soin de nos victimes, c'est le troisième axe. Puis moi, je vais vous dire, ce matin, après une carrière de 28 ans comme policier, puis on verra ce qui va arriver en commission. Là, on a encore du travail à faire à l'Assemblée nationale. Mais pour moi, là, c'est un moment très particulier. Je suis très ému de pouvoir déposer ça parce que je sens qu'on s'en va à bonne place. On fait des bons changements. On y va petit pas par petit pas.
Il est temps que le PM vous fasse de la place. Ça, vous n'allez pas commenter. Là, mais il est temps que vous soyez ministre pour vrai, que vous ayez plus de glace. Pour vrai, là?
Regardez, j'ai deux chapeaux, comme vous savez, j'en ai trois. Je m'occupe du Nord du Québec, je m'occupe des relations avec les Premières Nations, les Inuits, c'est un dossier que j'aime beaucoup. Et là, je suis heureux d'embarquer dans la continuité au niveau de la sécurité publique. Mes prédécesseurs avaient mis en place, entre autres, le bracelet anti-rapprochement. Ça existait depuis les années 80, personne n'avait jamais rien fait là-dessus, on l'a fait. Plus de sécurité dans les prisons, mon collègue François Bonardel avait embarqué là-dessus. Beaux changements qui ont été faits, puis là, on embarque avec une pièce législative. Puis la première chose... C'est un registre pour les délinquants sexuels à haut taux de récidive. C'est assez ciblé. Moi, honnêtement, quand on me l'a présenté, j'étais pas sûr. Pour vous dire pourquoi.
Pourquoi?
Ben, comme policier, j'avais vécu deux choses. New York l'avait tenté, mais c'était un système d'autodélation. Ça, c'était terrible. Là. Imaginez, vous êtes en chicane avec votre voisin, vous allez l'inscrire comme pédo, puis c'est sûr qu'il en mange une solide.
Ben oui.
Ça n'avait pas d'allure. Et l'autre chose qu'on avait vécu, moi, à Montréal, il y a le dossier de Carla Molka, que tout le monde se souvient. Lorsqu'elle est sortie de prison, qu'elle est envoyée dans la région de Montréal, on a dû la déménager à deux reprises parce que les gens la pourchassaient, voulaient savoir où elle habitait. Moi, j'avais juste peur qu'on tombe dans un système de vendetta, où les gens feraient la traque à ces agresseurs-là qui ont été libérés.
Mais on publie pas l'adresse. C'est pas comme aux États-Unis où tu as des applications aux États-Unis où à telle adresse, il y a tel agresseur. Ça, il y a toujours un risque. Quel est l'encadrement? Parce que là, vous allez publier quand même la photo. Il y a quand même de l'information là-dedans. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce registre-là qui sera, rappelons-le, public?
Mais premièrement, chaque année, les institutions carcérales vont nous envoyer la liste des gens qui vont être libérés. Il faut comprendre que ceux qu'on cible aujourd'hui, là, c'est les gens qui vont être libérés. Leur peine va être terminée. Ils vont avoir purgé leur peine au complet. Donc, en bon québécois, là, l'État ne pue rien avec ces gens-là. Il n'y a aucun filet de sécurité. On parle d'environ une centaine de cas, des personnes qui, bien que libérées, bien que terminées leur sentence, les gens à l'intérieur vont nous dire, écoutez, ces gens-là, là, on les écoute, on les regarde aller. Probablement, ils n'ont pas progressé. Ils n'ont pas fait de formation.
Ils n'ont pas fait leur programme, ils n'ont pas fait leur thérapie. Ils n'ont pas le choix d'être libérés.
Ah, puis des fois, on a entendu là, des cas, moi, comme policier, avec ma conjointe à Montréal, on avait entendu un cas d'un gars qui avait dit clairement que dès qu'il était libéré, son premier souhait, c'était de violer la première femme qu'il croisait. Mais comme société, il faut qu'on se donne un filet. Oui. Alors, ce qu'on va faire, donc c'est une centaine de cas qui vont être soumis à un groupe de 5 experts qui vont analyser ça avec une grille, si vous voulez, que je vais soumettre comme ministre. Et là, je pense qu'il y a quelques douzaines de cas qui vont en rester, qui vont être publiés sur le site de la Sûreté du Québec. On va mettre le visage, la date de naissance, le nom complet, bien entendu. On va aussi mettre le modus operandi. Qu'est-ce que ce suspect-là faisait? Exemple, c'est un agresseur qui s'en est pris en série à des jeunes filles. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour les approcher? Il mettait une publicité sur Kijiji. Il faisait. Enfin, vous comprenez, les gens vont pouvoir voir quel est son
fils. Oui, ou un pédo, par exemple, il les attirait avec un animal de compagnie. Ils les invitaient au cinéma, ce genre de trucs-là. Là.
Ouais, donc, on va mettre ça. Et après ça, pour le lieu de résidence, on ne mettra pas l'adresse. Ça n'a pas d'allure. Puis moi, je crois en réinsertion en passant. Il faut trouver le juste milieu.
De toute façon, vous auriez été débouté devant le tribunal. Vous savez très bien.
Deuxièmement, c'est pas ce qu'on veut. Écoutez, on veut pas s'en prendre physiquement à ces gens-là.
On veut pas de guerre civile.
Non, du tout. Fait que, exemple, si c'est un plus petit village, on va donner la région. Si c'est une plus grande ville comme Montréal, on pourrait dire Montréal. Et on va le mettre sur le site web. Moi, je me suis rassuré de tout ça en voyant que les autres provinces canadiennes le faisaient. L'Ontario, les prairies, Colombie-Britannique, qui nous ressemblent beaucoup des fois là, au niveau de notre justice, eux l'ont fait aussi, puis ça se passe bien. Puis eux, ils font beaucoup plus large que ça. Nous, on y voit juste les délinquants sexuels. Eux, c'est tout type de crime. Enfin, je me dis qu'on est à la bonne place pour un essai, pour commencer. On m'avait demandé de regarder la violence conjugale aussi. Ceux qui font des violences conjugales à répétition.
Oui.
Je suis pas prêt à le faire. Je vais vous dire pourquoi le chiffre est trop élevé. Je suis pas sûr qu'on aurait la capacité
c'est à court terme de faire. C'est pas édifiant pareil, hein? Il y en a trop. C'est ce que vous nous dites ce matin.
Ouais, je m'excuse. Pareil, cependant, hein? J'ai pas oublié les victimes de violences conjugales sur deux volets. Premièrement, puis ça, les gens n'ont pas parlé beaucoup ce matin, mais je pense qu'on va prendre un instant pour en parler ensemble.
Oui.
Quand les policiers vont intervenir sur un dossier de violence conjugale, premièrement, le suspect, ils vont avoir le droit de donner ses coordonnées à un organisme qui va en aide aux hommes violents. Si on veut briser le cercle de la violence, il faut venir en aide à ces personnes-là. Et ça,
encore faut-il que l'individu veuille les rencontrer?
Ben, c'est ce que j'allais vous dire. Dans des projets pilotes qui ont été faits, 75% des hommes ont accepté. Et ça a bien été, ça a eu des bons résultats. Fait qu'encore là, donnons-nous un outil de plus. Et l'autre chose, quand les policiers vont libérer le suspect, ils vont avoir le droit d'appeler la victime, donc la conjointe ou l'ex-conjointe, puis dire « voici les conditions de libération du suspect ». Avant ça, c'était pas permis, c'était pas légal. Maintenant, ils vont pouvoir le faire. L'autre chose pour les victimes aussi, devant la commission des libérations conditionnelles, vous savez, si on écoute des films, là, on entend une personne là, qui va témoigner en disant « ne libérez pas mon agresseur oui. », mais c'est au Québec que ça se faisait pas. Maintenant, les gens vont pouvoir se faire entendre, vont pouvoir dire devant le comité de libération conditionnelle, avant de libérer monsieur ou madame, là, voici ce qu'ils m'ont fait, puis ils vont pouvoir se faire entendre.
Au fédéral, monsieur le ministre, là, je le vois, moi j'ai déjà assisté au fédéral, tu sais, tu as un victim impact statement. Là. Au fédéral, moi j'ai vu, entre autres, c'est pour parler du cas de Moïse Thériault. Moi, j'étais là lors de la dernière apparition de Moïse Thériault, puis c'est Mme Gabrielle Lavallée qui était là, celle qui s'est fait couper la main. Elle est intervenue en disant « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Vous me dites qu'au provincial, on ne pouvait pas faire ça?
C'était pas devant le comité des libérations conditionnelles. Hey. Maintenant, ça va être permis.
Okay.
Fait que ça, c'est une avancée qui était importante. Fait que ça, c'est le volet bon agresseur sexuel, registre, aide aux victimes aussi, protéger nos victimes.
C'est pour quand le registre? Ça va-tu prendre du temps à élaborer?
Bien, il y a deux éléments. Un, on va regarder la pièce législative. Là, on va être en commission.
Oui.
Par la suite, bon, on se cachera pas qu'il y a une somme reliée à ça. On parle à peu près 1,4 million la première année, 8 ressources. Je vais voir ce qu'on va avoir au prochain budget. Mais moi, ce qui est important, c'est de mettre tout ce qui est le cadre légal. Mais après ça, ça ne sera pas très, très long. On va recevoir les différents dossiers des suspects, tout ça. Fait que on va voir, comme je vous dis, d'après moi, là, quelques douzaines au début.
Donc, des criminels dangereux qui viennent d'être libérés, qui représentent encore un danger certain, un degré certain de dangerosité pour la société. C'est ça, votre gauge?
Absolument. Absolument. Puis je vais mettre des barèmes assez précis. On commence à quelque part, on commence là. Moi, je pense qu'on est à la bonne place.
Oui. Les patchs, comment on gère ça?
Mais ça, écoutez, premièrement, je défends l'image parce que plusieurs là, pensent qu'on s'attaque à une mode vestimentaire. Là. C'est pas ça pantoute, là. Quand les moteurs criminalisés, entre autres, ou les groupes émergents, ou toutes sortes de groupes criminels s'affichent, il y a un but très, très clair. C'est quoi? C'est de l'intimidation pour faire de l'extorsion. On en vit beaucoup au Québec. Moi, j'étais sur la Côte-Nord il y a 3 semaines et je rencontrais des Inuits de la communauté de Wahat McMahon-Tenan qui nous disaient, écoute, on doit sortir le crime organisé, ça n'a plus d'allure dans notre communauté. Malheureusement, vous l'aurez 4 ans, quand j'avais fait ma première visite, je savais que ça s'en venait. J'avais vu des Hells dans un restaurant. Par la suite, ils se promenaient dans toutes les communautés à prendre des photos avec les femmes, les enfants. C'était bien cute, là. Tout le monde trouvait ça bien fun. Mais ce qui est arrivé après, ben, ils ont commencé à forcer les commerces, les jeunes à vendre leur drogue. Et ça nous amène où on est là aujourd'hui.
Alors, as-tu une recrudescence de ce genre d'affichage-là avec la guerre contre BFM?
Oh, oui, ben oui. Ouais. Ben oui. C'est une façon de marquer son territoire. Puis en passant, oui, des fois, ils sont frontales, c'est-à-dire qu'ils sont en guerre, mais d'autres fois, c'est des crimes d'opportunité. D'autres fois, ils vont utiliser des groupes émergents pour faire leur sale besogne. Fait que nous, ce qu'on va donner comme pouvoir policier, c'est le pouvoir de donner un constat d'infraction, 1 000 $ à la première offense, à quelqu'un qui porte ce logo-là, ou des dérivés. S'ils décident de porter juste le logo, sans le nom, s'ils décident de porter...
Par exemple, monsieur le ministre, t'as Striker. Ouais. Des fois, il a pas sa patch, c'est écrit Striker, ça marche-tu?
Ça va être rentré là-dedans aussi. Et même les Support 81. 81, qui est 8 et 1, la 8e lettre de l'alphabet H, la première lettre de l'alphabet A, H-A. Vous savez, on les voit, là, ils vont dans les foires, des fois, avec le camion de cochonnerie, là, puis ils vendent ça aux jeunes. Écoutez, c'est pour glorifier un groupe criminel. Pensez aux victimes, là, victimes collatérales, qui se font raides en face par un groupe criminel qui vend des cochonneries. Ça, c'est fini. Ça, on va agir là-dessus. Pour les entreprises comme le fameux camion, ça, on va être sans merci. Ça va être des grosses amendes. Pouvoir de saisie, puis au final, pouvoir de détention. Fait que ça va être un outil. C'est pas ça qui va tout régler, c'est clair. Mais exemple...
Ben non, ça réglera pas tout. BFM n'est pas patché.
Ben non. Mais on va lui mettre de la pression. Oh oui. Et là, je vous fais une annonce aujourd'hui. J'ai fait une annonce à la prévention il y a 3-4 semaines. On va se reparler en début d'année. On va continuer ce qu'on a fait, c'est-à-dire des escouades régionales mixtes. On va mettre de la pression sur le crime organisé. Écoutez, on n'en viendra pas à bout. Là. J'ai aucunement l'intention de vous dire ce matin là, de faire à croire à vous, vos auditeurs, que ça va tenir le crime organisé. Mais on doit ramener un équilibre. Présentement, il nous rit d'en face, puis ça passe pas.
L'autre chose, puis quand tu as avancé, je salue ça, le registre, la loi anti-patch, les manifs. Mais juste une question avant d'aller aux manifs puis les casseurs. Pourquoi rien sur la prostitution juvénile? Y a-tu quelque chose au four pour 2026 sur la prostitution juvénile? Tu sais, une escouade. Évidemment, on a connu ici le Scorpion. Bon, on l'a connu pour Québec. Mais on avait pensé à un moment donné établir une escouade permanente anti. Parce que là, on revient encore avec le même modus operandi que dans le temps Scorpion, c'est-à-dire les rappers, les gangs de rue, le recrutement. On a vu cette semaine beaucoup plus de fugues qu'avant, déplorées par la DPJ. Donc, il y a beaucoup de filles qui fuguent, qui tombent dans la prostitution, des raquettes de trafic humain. On veut-tu faire quelque chose à la CAQ avec ça?
Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Okay. Avec la commission spéciale qu'on a mis en place, ça s'appelle l'équipe intégrée de lutte au proxénétisme. Et on a aussi l'équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile.
C'est efficace?
Parce qu'on a beaucoup aussi. Pardon?
Est-ce que c'est efficace?
Ah, ça marche, oui. Oui, mais le problème, là, on va se parler en tout cas ce matin. Le problème, c'est qu'il y a encore des hommes qui sont prêts à payer pour coucher avec des filles de 12 ans. Puis ça, si on n'est pas capable de se le dire entre nous autres, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Là. À la base, tant qu'on va avoir cette clientèle-là, puis tu sais, quand je parle de client, je veux parler d'exploiteur, il n'y a pas d'autre mot. Parce que souvent, puis en commission, on l'a entendu, les gens se cachent sur le fait que ils ont payé, c'est un service, puis la petite était contente. Excusez des mots crus que j'utilise en matin.
Mais y a-tu moyen de publier, non? Une disposition dans la loi, les Jones, comme on appelle. Oui.
Ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça a été essayé, ça marche pas. Ce qui fonctionne cependant, puis ça, il y a un projet pilote qui a été fait à Longueuil, dans mon comté. Ça s'appelle le Jones School. Le Jones School, c'est-à-dire lorsque c'est des adultes, pas des enfants. Les enfants, là, c'est sans merci, c'est un dossier criminel. Mais si vous allez voir, puis là, les policiers peuvent faire des opérations clients, c'est-à-dire qu'ils mettent une publicité, vous les contactez, finalement, vous faites arrêter. Il vous donne la possibilité soit d'aller au criminel ou de faire ce qu'on appelle un programme de réinsertion, le Jones School, où vous allez entendre des victimes de la traite de personnes qui vont venir vous expliquer ce qu'ils vivaient. Puis vous allez voir que la pièce de théâtre que vous avez eue, là, c'est-à-dire quand vous arriviez, vous pensiez qu'elle était bien heureuse, bien contente, tout allait bien, ce que ces femmes-là doivent vivre et endurer. Et on parle d'un taux de non-récidive de 80%. Les gens ne récidivent pas. Fait que ça, c'est une alternative intéressante. Mais ce qu'on fait ce matin, pour moi, là, c'est la priorité numéro un, c'est-à-dire d'en parler entre hommes. parce que ça n'a pas d'allure. Moi, je parlais, puis juste à Longueuil, on parlait de centaines de filles qui étaient là-dedans, mais vous savez que 50% des victimes sont des membres des Premières Nations. Vous savez qu'il n'y a pas d'endroit au Québec. Puis là, les gens qui vous écoutent, là, qui sont peut-être dans un plus petit village, qui disent, ben, moi, ça va bien chez nous. On avait fait une démonstration avec un outil en ligne. Il n'y a aucun village au Québec où il n'y a pas de demande de services sexuels. Puis, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas juste pendant le Grand Prix l'été, c'est 365 jours par année. Moi, j'ai des jeunes femmes qui sont venues témoigner nous disant que le papa appelait pour avoir un service sexuel dans le garage pendant que la famille dormait dans la maison. Je veux dire, on doit se parler de ça. Ça, ça n'a plus d'allure. Et que le Québec soit reconnu pour l'exploitation sexuelle des filles, excusez-moi, là, c'est inacceptable.
Comment vous avez trouvé le podcast de Sexe Oral? Vous avez entendu parler. C'est un podcast très écouté où ils ont fait jouer une entrevue avec une pédophile qui fait des parties de pédophiles, mais ils n'agressent pas des enfants, mais ils fantasment sur des viols d'enfants. Ils font du sexe là-dessus. Puis ils se parlent de leurs fantasmes. On aimerait tout ça. Puis regarde, ça serait bien le fun. Puis regarde, je te touche. Imagine-toi que tu te fais toucher par un gars de 12 ans. Ça, vous n'avez entendu parler. Ça a fait le tour du Québec. On a mis en valeur, ni plus ni moins. On veut déstigmatiser la pédophilie. Ça va loin, là.
Oui, mais présentement, on vit dans un monde de même où beaucoup centré sur la consommation. C'est pour ça que je défais le mythe de la consommation, c'est-à-dire quand on parle de mineurs, il n'y a pas d'histoire de client, j'ai payé, puis la personne...
Mais comment vous trouvez ça, ce podcast-là?
J'ai-tu vraiment besoin d'en rajouter, sérieusement?
Ça va pas sa place.
Ça nous démontre, mais d'un autre côté, ça nous démontre ce qu'il y a de plus horrible de l'humain.
Oui, c'est ça.
Malheureusement,
ça, vous avez raison. Il y a une réalité laide.
Ben oui, c'est là. Puis tu te dis, malheureusement, si ça existe, il faut agir. D'un autre côté, tu sais, comme parents, là, on s'entend qu'on a beaucoup de filtres de protection qui font en sorte que le soir, on est capable de dormir en disant « mes filles sont correctes ». Mais tu sais, souvent, les gens se disent « ben moi, ils vont dans une bonne école, ils ont des bons amis, des bons parents ». Si vous avez écouté la série « Fugueuse », la première série, ça se passait dans mon comté, c'est l'histoire de mon comté. C'est une jeune fille qui est une première de classe, école internationale. Oui. Ses deux parents sont profs d'école. Puis malgré tout ça, son agresseur, le salaud, à la soirée de ses 18 ans, l'a agressé. Il a possible de le forcer pendant 2 ans à se prostituer. Mais ça, là, ça existe. Et moi, pendant la commission spéciale, j'ai un ancien collègue policier à Montréal qui m'a appelé.
Oui.
Lui, policier, enquêteur, sa femme travaille à DPJ, puis leur fille a été exploitée sexuellement. S'il y a quelqu'un qui connaissait la réalité, c'était bien eux. Puis c'est arrivé pareil. Puis je veux pas faire capoter les parents ce matin, là. Mais ce que je veux dire, c'est...
Personne n'est exempt de ça.
Non, puis souvent, on va arriver en disant, ben, tu sais, c'est sûr, ça c'est des jeunes fugueux, ça, c'est des jeunes en protection de la jeunesse. Mais malheureusement, non. Et l'appât du gain, comme société, on en parle souvent, c'est important d'être fameux. Je vais prendre les termes de mes filles, là, d'être connu, d'être reconnu, d'être spécial, d'avoir des sous. Mais on n'aide pas nos enfants quand on dit des choses en même temps.
Bravo. Félicitations. Solide. Oui, on aurait pu, là, on manque de temps, on aurait pu parler d'interdiction de manifester devant la résidence d'un élu. Ouais, c'est ça.
On en a besoin, mais on se redonne rendez-vous, parce que je vous le dis, il y a d'autres choses qui s'en viennent. C'est une étape 2, mais c'est vraiment pas la dernière étape.
Merci beaucoup. Félicitations.
Hey, bon matin à vous. Merci.
Bye bye. Il n'y en a pas dans le PQ, un gars de police, puis il n'y en a pas dans les libéraux, puis QS, ai-je besoin d'en rajouter? C'est Yann Lafrenière. Regarde, c'est ça. That's it, that's all. J'adore. Il a toujours été comme ça. No nonsense, la sécurité. Regarde, moi, je fais pas de compromis là-dessus. Je fais pas de compromis là-dessus.
Il y a de plus en plus de bons qui commencent à sortir de ce parti-là. Là. Ils ont décidé de se rapprocher de leur base qu'ils ont eu là en 2018. Oui. Là, ceux qui ont rendu cacu pendant 6 ans. Ils ont décidé de dire « Je m'excuse, chérie, c'est pas ce que tu penses. » là. Ils veulent revenir à la maison. Hein. Mais il reste que tant et aussi longtemps qu'ils ont ce gars-là comme chef. C'est impensable que moi et bien du monde puissent envisager. J'ai jamais voté pour la CAQ.
Il y a des bonnes idées à CAQ. Regardez, on le dit, ça... La loi contre les syndicats, puis c'est pas contre les syndicats, c'est pour les membres syndiqués. C'est bon. La laïcité, moi, ça me touche. J'aime ça, cette loi-là. Eddie Van Roberge, il y a plein de choses que j'aime pas, mais là-dedans, ils sont vraiment dans le bon créneau.